Chapitre 30e. Ce fut pour l'amour de ma femme que j'eus avec ma maîtresse un démêlé sérieux dès que le jour parut. « Je crois que tu pleures, » s'écria la comtesse étonnée. « Qu'as-tu donc ?» Lui avouer que je donnais ses larmes à l'absence de Sophie, c'eût été vraiment une cruauté. J'aimais mieux me permettre un officieux mensonge. « Je m'afflige parce qu'il faut, mon Éléonore, que je vous quitte pour quelques heures. » « Me quitter, pourquoi faire ? » ?»« Une visite. » »« À qui ? » ?»« Pas à mon père, car il me retiendrait, et je veux revenir, mais à ma sœur. » »« À ta sœur, mon bon ami, rien ne presse. » »« Je ne puis m'en dispenser aujourd'hui. » »«
Tu ne le peux ?»«
Non, absolument. » »«
Absolument. » »«
Eh bien, j'irai avec toi. » »«
Quelle idée ! » !»«
Nous montrer ensemble dans les rues de Paris ? » ?»« On n'a qu'à me reconnaître. » »«
Nous baisserons les stores. » »«
Oui. » Ne faut-il pas toujours descendre de voiture et y remonter? Et puis, est-il possible que je te mène à ce couvent? À quoi cela ressemblerait-il?
Je t'attendrai à la porte.
Et non, non,
vous ne voulez pas.
Je le voudrais de tout mon cœur, mais
vous me trompez.
Ma jolie petite amie, peux-tu le croire?
Je le crois.
Vous méditez une infidélité.
Éléonore,
ce n'est pas chez votre sœur que vous allez, mais chez cette indigne marquise. Ou peut-être chez cette petite sotte de mon désir.
Ma chère Éléonore.
Mais si vous avez des rendez-vous, vous les manquerez, car je vous défends de sortir.
Vous me le défendez?
Oui, je vous le défends.
Madame,
prenez ce ton avec monsieur de Lignol, tant qu'il voudra bien le permettre. Quant à moi, je vous déclare que je ne le souffrirai pas et que je veux sortir tout à l'heure.
Et moi, monsieur, je vous déclare que vous ne sortirez pas.
Je ne sortirai pas,
non.
Nous allons voir.
Je fis un mouvement pour me précipiter hors du lit.
De la main droite, elle me retint par les cheveux, et de la gauche, elle tira le cordon de sa sonnette avec tant de violence qu'elle le cassa.
Ces femmes effrayées accoururent à sa porte.
Elle leur cria « Qu'on dise aux Suisses qu'ils tiennent l'hôtel exactement fermé et qu'ils ne laissent sortir aucune des femmes de ma maison !»
Cette manière de garder un amant me parut si neuve que je fus obligé d'en rire. Ma gaieté plut à la comtesse, qui se mit à rire aussi. Quelques minutes se passèrent dans le délire de cette joie. Nous nous levâmes ensuite, et quand je fus habillé, la querelle recommença.
« Éléonore, je m'en vais.
Je te donne ma parole d'honneur qu'avant 2 heures, je serai de retour.
Mademoiselle de Brumont, je te donne ma parole que mon Suisse ne te laissera pas sortir.
Quoi ?
Sérieusement, madame ?
Très sérieusement, monsieur.
Comtesse, je n'essaierai point de forcer le passage. » Parce qu'ajouter à votre imprudence une imprudence encore, ce serait visiblement vous compromettre. Mais souvenez-vous de la violence que vous me faites. Songez que vous n'aurez pas toujours le pouvoir de retenir votre amant chez vous malgré lui, et qu'une fois libre, il pourra tarder longtemps à venir reprendre un joug que vous lui aurez rendu pesant.
Ah, l'indigne ! Il menace de m'abandonner.
Faublas, quand tu ne reviendras pas, je t'irai chercher. J'irai chez toutes tes maîtresses, les unes après les autres. Chez cette madame de mon désir, pour la souffleter. Chez la marquise, pour te demander à son mari. Jusque chez ta femme, s'il le faut, pour lui déclarer que je suis ta femme aussi.
Oui, ta femme.
Mettez mon courage à cette horrible épreuve, et vous verrez,
perfide.
Je vais partout à votre poursuite. Je vous surprends chez une rivale, je la tue, je vous tue, je me tue, et jusque dans mes derniers moments du moins, je vous prouve que je vous adore,
ingrat que vous êtes.
Grand Dieu, où suis-je? Je ne me connais plus.
Faublas, mon ami, ne sois pas fâché, ne sors pas.
Tu ne dis mot, tu me repousses.
Je t'en prie, pardonne-moi.
Tiens, regarde, je pleure, je suis à genoux.
Je fus attendri. Je la relevai,
je la consolai. Nous entrâmes en pourparlers,
nous capitulâmes.
J'obtins qu'on irait tout à l'heure lever chez son Suisse la défense qui me tenait aux arrêts chez elle, mais elle obtint que je ne sortirais pas. Le lendemain, cependant, je me sentis plus inquiet. Et résolu de voir Justine à quelque prix que ce fût, je parlai de ma sœur à la comtesse. L'interminable dispute allait s'échauffer lorsqu'au coup de marteau du maître, les portes de l'hôtel s'ouvrirent avec fracas. Monsieur de Lignol accourut à l'appartement de sa femme et du plus loin qu'il nous vit, il s'écria « Félicitez-moi, mesdames, je rapporte de Versailles le brevet d'une pension de 2000 écus.
Pour qui ? Demanda la comtesse.
Pour moi, répondit-il de l'air du monde le plus satisfait.
Monsieur, j'en suis fort aise, puisque vous en paraissez content.
Mais qu'est-ce que pour vous qu'une pension de 6000 livres ?
Je n'ai pas pu l'obtenir plus forte.
Vous m'entendez mal, reprit-elle d'un ton froid, qui contrastait merveilleusement avec la joie de son mari.
Loin de me plaindre que la pension soit trop modique, je m'étonne que vous l'ayez sollicité, vous, monsieur, qui possédez plus de 1200 000 livres de bienfonds et à qui j'ai apporté près du double en mariage.
Madame, on n'est jamais trop riche.
Eh, monsieur, tant d'honnêtes gens ne le sont pas assez.
Pourquoi ne pas laisser les grâces de la cour se répandre sur ceux qui en ont un véritable besoin ?
Il est vrai, dit le comte en se frottant les mains, qu'une foule d'amateurs s'était mise sur les rangs. Je n'ai pas été seul favorisé.
Madame de Lignol rougit, pâlit, frappa des pieds.
Brumont, vous l'entendez ? Cela ferait sauter au ciel.
Monsieur, je ne connais, comme vous le dites, ni le monde, ni le cœur humain, ni, Dieu merci, l'art des beaux raisonnements. Mais j'écoute ma conscience. Elle me crie qu'aujourd'hui, vous avez surpris les ministres, trompé le roi et volé les malheureux.
Madame, l'expression...
Oui, monsieur, volé.
Son mari voulut sortir, elle le retint, et d'un ton qui paraissait plus calme, elle continua.
Si vous ne trouvez pas moyen, sous quelques jours, de vous démettre de votre pension en faveur de monsieur de Saint-Pré, je vous déclare que je me chargerai du soin de lui faire passer tous les ans 2000 écus par une voie indirecte et par forme de restitution.
Comme il vous plaira, madame.
Vous le pouvez sans vous gêner beaucoup.
Ce sera tout au plus le tiers de la somme annuelle que vous êtes réservée pour votre entretien.
Ne vous en flattez pas, monsieur. Je ne toucherai pas à cette portion de mon revenu.
Quoique je ne vous en doive aucun compte, je suis bien aise de vous répéter ce que je vous ai déjà dit 100 fois. Je ne me consolerai pas de dépenser 20 000 francs en bagatelles de toilette lorsqu'il y a sur vos terres des misérables qui manquent de pain.
Tout à l'heure, la comtesse riait. Maintenant, je voyais ses yeux se remplir de larmes.
« Monsieur, reprit-elle avec beaucoup d'impétuosité, je pars demain. »«
Demain, madame, c'est trop tôt, la saison. Pardonnez-moi, monsieur. Le printemps qui s'approche ramène les beaux jours. Il fait un temps superbe. » Demain, je pars pour ma terre du Gâtinais. J'y reste quelques jours. Je reviens ensuite chercher ma tante, dont les affaires sont finies, et je vais avec elle passer quelques semaines en Franche-Comté. J'ai aussi des enfants dans ce pays-là.
Mais, madame,
monsieur, demain je pars, c'est une chose décidée. J'emmènerai mademoiselle de Brumont. Si vous êtes prêt, vous viendrez avec nous.
Avez-vous à faire ?
Ne vous gênez pas. Je n'ai besoin ni pour mes travaux, ni pour mes plaisirs, d'un homme également incapable de contribuer au bonheur ou de compatir aux misères de personne.
À l'instant même, elle ordonna qu'on préparât ses malles et sa voiture de campagne.
Monsieur de Lignol s'en alla mécontent et soumis.
Cependant, la comtesse versait quelques larmes. Je voyais l'intérêt le plus tendre régner sur son visage, où le feu de la colère venait de s'éteindre.
Mon cœur se pénétrait du sentiment délicieux dont le sien paraissait vivement ému.
Jugez combien, en ce moment, Madame de Lignol me parut plus brillante de ses attraits piquants et de son extrême jeunesse, et soyez moins étonné d'apprendre qu'une cause en soi digne d'éloge ait produit par l'occurrence des effets condamnables.
Quelques minutes après son départ, Monsieur de Lignol revint à l'appartement de Madame.
Heureusement, j'avais mis les verrous.
Vous vous êtes enfermé ?
Cria-t-il.
Oui, monsieur, répondit-elle.
Pourquoi donc ?
Parce que nous recommençons notre charade.
Est-ce une raison pour que je n'entre pas ?
Si c'est une raison, je le crois bien.
Je vous ai déjà dit, monsieur, que je ne voulais pas être dérangé quand je composais.
Revenez donc dans un quart d'heure. La leçon sera peut-être finie.
Elle ne dura pas si longtemps, la leçon, mais après l'avoir prise et donnée, l'écolière et le disciple eurent une petite explication qu'il ne fallait pas que tout le monde entendît.
« Éléonore, ma charmante amie, tout à l'heure je t'écoute avec transport prêcher à ton mari, qu'il ne les connaît pas, des vertus que j'idolâtre. Tu m'es devenue plus chère, tu me parais plus jolie.
« Eh bien,
me répondit-elle, c'est ce que ma tante m'a toujours dit.
Toujours elle m'a répété qu'un air de bonté paraît une figure mieux que tous les chapeaux de Mademoiselle Bertin. Elle avait donc raison, puisque mon amant s'en aperçoit. « Oh, que je suis contente » cria-t-elle en faisant un saut de joie. « Que je suis contente d'être bonne, puisqu'en effet, cela me rend plus aimable à tes yeux. Tiens, Faublas, je le serai chaque jour davantage. Tiens, mon ami, j'ai mes défauts comme tout le monde. Je suis vive, impérieuse, colère. On me croirait méchante, et dans le fond, il n'y a pas de meilleure femme que moi. Je vaux de l'or. Tous les jours, tu me découvriras des qualités nouvelles, je te le dis. Tu verras, tu verras. Demain, je t'emmène à ma terre. En es-tu bien aise ? J'en suis enchantée, ma petite amie. Pourquoi, petite ? Pas tant, ce me semble. Ne trouves-tu pas que je suis grandie depuis 4 mois ? Au moins d'un pouce. Ah ! Je compte grandir encore. Je grandirai, sois-en sûre. Cela te fera plaisir aussi, n'est-il pas vrai ? Grand plaisir, assurément. Pour revenir à la question que tu me faisais tout à l'heure, je suis enchantée d'aller à la campagne avec toi. Mais si tu veux que je parte demain, il faut souffrir que j'aille aujourd'hui chez Adélaïde et que j'y aille seule. Ici recommença notre dispute, qui cette fois se termina à mon avantage. J'eus même le bonheur de faire comprendre à la comtesse qu'il ne fallait pas qu'elle me donnât son carrosse. On fit avancer un honnête fiacre, à qui j'indiquai d'abord le couvent d'Adélaïde, mais, à quelques pas de l'hôtel, je priai mon phaéton de me conduire incognito chez Justine. La paresseuse était encore au lit, où M. de Valbrun causait avec elle. Tous deux, pourtant, dès qu'on eut annoncé Mademoiselle de Brumont, lui crièrent d'entrer. Je fus reçu comme un ami commun. Je ne sais pas si le vicomte, tout à fait exempt de jalousie, trouvait à me voir chez sa maîtresse autant de plaisir qu'il mit d'affectation à me l'assurer, mais je sais bien que Madame de Montdésir faisait des efforts malheureux pour que M. de Valbrun ne vît pas qu'elle lui préférait M. de Faublas. La pauvre enfant, encore un peu neuve dans son métier, remplissait difficilement sa tâche. J'avoue que ce ne fut pas pour l'aider à sortir d'embarras que je lui parlais de mes affaires. Elle parut fâchée de m'apprendre qu'elle n'avait aucune nouvelle à me donner de la part de la marquise, et elle se chargea volontiers de la faire avertir que je partais avec Madame de Lignol pour le château de X. Le vicomte me promit de son côté qu'il ne dirait point à la baronne en quel endroit il m'avait rencontré. Du Palais-Royal, j'allai rue Croix-des-Petits-Champs, au couvent de ma sœur. Paraître devant elle dans ce nouveau travestissement, c'eût été beaucoup affligé, ma chère Adélaïde, et commettre une imprudence inutile. Je me contentais de griffonner un petit billet par lequel j'apprenais à Mademoiselle de Faublas que son frère allait passer quelques jours à la campagne.